Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Oui, bonjour, chers frères et sœurs. Nous allons parler aujourd'hui ensemble du grand secret des gagneurs d'âmes. En effet, les gagneurs d'âmes ont en la personne de Jésus-Christ de Nazareth un grand secret qui les rend efficients dans l'œuvre de Dieu auprès des âmes, au service des âmes. Et je t'invite tout de suite, ma bien-aimée, mon bien-aimé, à prendre la parole de notre Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Et nous allons lire du verset 11 au verset 14. La parole de Dieu déclare, et c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant en personne qui parle. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Matthieu 18, 11 à 14. Il nous est dit ici, allez chercher. Donc, celui qui perd une brebis, va la chercher. Et allez chercher ici, me rappelle le grand ordre de mission de Matthieu 28 au verset 19. Grand ordre de mission au travers duquel Jésus invite ses disciples à aller. Jésus invite ainsi les siens à aller, bien-aimés dans le Seigneur. Aller où? Et pourquoi? Aller dans le but de chercher. Et de chercher pour quoi faire? Pour ramener à la maison. À la bergerie. Jésus en personne tient à attirer l'attention de tous ses disciples quant à la nécessité spirituelle d'avoir de la considération pour toutes les brebis, pour toutes les âmes. Chaque brebis a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Cette déclaration que nous venons de lire en Matthieu 18, du verset 11 au verset 14, doit être ressentie par tous les disciples du Seigneur comme étant une interpellation sommatoire. Et plus tard, le Seigneur enfoncera le clou dans l'évangile de l'apôtre Jean au chapitre 10, au verset 16, en déclarant ceci, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Le disciple doit constamment avoir à l'esprit que le maître a encore d'autres brebis qui sont dehors. Il faut que le disciple de Jésus-Christ ait cela constamment dans son cœur, dans ses pensées, qu'il y a encore des brebis de mon maître qui traînent dehors, qui ne sont pas encore dans l'enclos, qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Et ceci a pour conséquence que le disciple de Jésus-Christ doit toujours veiller à ce que la porte soit grandement ouverte. Cette porte doit être mise à la portée de tous, mais elle doit rester ouverte pour les brebis qui doivent passer au travers d'elle. Cela veut dire tout simplement que Jésus-Christ doit être amené vers les perdus. Les perdus, mon frère, ma sœur, ont besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Non pas de toi, non pas de moi, mais les brebis ont besoin de Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire les brebis égarées, les brebis perdues, les rétrogrades, celles qui étaient dans l'enclos et qui, pour une raison que toi et moi, nous ne connaissons pas, ont quitté l'enclos et se sont égarées, se sont fourvoyées, se sont perdues. Eh bien, ces brebis-là ont besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Et il faut que nous leur apportions Jésus-Christ de Nazareth, que nous leur amenions Jésus-Christ de Nazareth. Et cette porte dont nous parlons, c'est véritablement Jésus-Christ de Nazareth, le Fils bien-aimé de Dieu. Il est cette porte. Et en Jean 10, verset 9, il le déclare lui-même. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Cela, il le dit en Jean 10, au verset 7. En Jean 10, verset 9, il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Et le fait d'entrer et de sortir nous parle de liberté et d'affranchissement. Les âmes perdues ont besoin de liberté parce qu'elles sont prisonnières, elles sont captives, ces âmes. Elles ont besoin d'être affranchies. De quoi ? De la puissance du péché. Elles ont besoin, ces âmes perdues, d'être affranchies de la puissance de la mort qui est la conséquence même du péché. Et en Galates, chapitre 5, au premier verset, il nous est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, véritablement, l'affranchissement nous parle de liberté. Il est très important, chers frères et sœurs, que les disciples du Seigneur intègrent ces paroles du Maître dans leur cœur, dans leur motivation de servir le Maître. Jésus-Christ de Nazareth était très concerné par la volonté de son Père, par les affaires de son Père bien-aimé. Et il doit en être de même pour chaque disciple de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous devons nous sentir concernés par les affaires du Père. Et à deux reprises, il a affirmé Jésus avec force. À Marie et à Joseph, ses parents terrestres, qui le réprimandaient pour la peur qu'ils ont eue de ne pas l'avoir trouvé, après l'avoir cherché pendant des heures, Jésus leur répond tout simplement. En Luc, au chapitre 2, au verset 49, Jésus répond à Marie et à Joseph, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Et je tiens ici à attirer l'attention de tous ceux qui vont m'écouter sur l'impératif que Jésus-Christ emploie. Il dit « Il faut ». Que je m'occupe des affaires de mon Père. Donc c'est prioritaire pour moi, c'est important pour moi, c'est essentiel pour moi. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Je suis venu sur cette terre, en substance ça veut dire, je suis venu sur cette terre pour m'occuper des affaires de mon Père. Non pas pour m'occuper de ma personne, mais pour m'occuper des affaires de mon Père. Et il nous faut bien comprendre, chers frères et sœurs, que pour les disciples de Christ, s'occuper des affaires du Père est un impératif plus qu'une nécessité, c'est un devoir. Nous avons le devoir de nous occuper des affaires du Père. À ses disciples qui le pressent de manger, et afin de mettre un terme à leur spéculation, parce qu'ils l'ont trouvé en train de parler avec une femme, Jésus-Christ répond avec fermeté. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, dit Jésus, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et cela est écrit en Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, au verset 34. Donc, pour les disciples que nous sommes, vous et moi, aujourd'hui, deux choses sont d'une criante importance. Un, la première de ces choses, c'est faire la volonté du Père. En tout temps et en toutes circonstances, faire la volonté du Père. Et deuxièmement, accomplir l'œuvre du Père, c'est-à-dire accomplir ce que le Père nous a donné à faire. Et en disant que ces deux impératifs sont sa nourriture, Jésus nous fait comprendre à nous, ses disciples aujourd'hui, qui sommes appelés à poursuivre son œuvre, que l'intégration de ces deux principes nous fait du bien, et ce, dans tous les domaines de nos vies. L'intégration de ces deux concepts constitue une nourriture saine et bienfaisante pour vous et moi qui sommes aujourd'hui les disciples de Christ. La bataille pour les âmes, mon frère, ma sœur, exige des combattants bien portants et équilibrés. En effet, cette bataille est une bataille âpre et excessivement prenante. Elle requiert une alimentation équilibrée selon les normes célestes, selon les normes du royaume. Bref, elle requiert une nourriture céleste. Maintenant, quelles sont ces normes célestes? La volonté du Père a à voir avec sa parole. Et accomplir l'œuvre du Père a à voir avec l'œuvre du Saint-Esprit. Donc les normes célestes pour la bataille des âmes sont la parole de Dieu et le Saint-Esprit. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit et veut, et le Saint-Esprit est celui qui nous accompagne afin que nous arrivions à faire les choses comme Dieu veut que nous les fassions. Ces choses qu'il nous dit, comment nous pouvons les mettre en pratique? Jésus lui-même n'a-t-il pas déclaré dans l'évangile de Jean au chapitre 15, au verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et encore dans l'évangile de Jean au chapitre 6, au verset 63, Jésus déclare « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Il est à noter, chers frères et sœurs, que l'écoute, la dépendance et la soumission au Saint-Esprit sont essentielles pour ce qui est du travail spirituel auprès des perdus. C'est essentiel, c'est incontournable. L'écoute, ce sont des choses qui sont essentielles, qui sont incontournables, c'est-à-dire l'écoute, la dépendance et la soumission à la discipline du Saint-Esprit. Ce sont des choses indispensables pour le travail spirituel que vous et moi, en tant que disciples de Christ, nous avons à faire auprès des perdus. Et Jésus dit en Jean 15 au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça rejoint ce que nous dit Zacharie 4:6, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Alors maintenant une question. Faut-il vraiment parler de bataille des âmes? Et pourquoi? Est-ce que le terme « bataille » convient? Et pourquoi? Pour répondre à la première partie de cette question qui consiste à savoir s'il s'agit véritablement d'une bataille, d'un combat, d'une guerre, nous allons nous référer aux Saintes Écritures. Allons ensemble dans la parole de Dieu et lisons très attentivement la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 6 et nous allons lire du verset 11 au verset 13. Écoutons ce que déclare la parole de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les princes, pardon, de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et dans la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, au verset 3, du verset 3 au verset 4, il est écrit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 1er, le verset 18b au verset 19, on nous dit « C'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » La foi et une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes font partie de ces ingrédients indispensables au combat pour les âmes. Et dans la seconde lettre de Paul à Timothée au chapitre 2, du verset 3 au verset 5, il est écrit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Nous avons ici toute une série de termes qui nous montrent qu'effectivement, le travail auprès des perdus est réellement un combat, une guerre. Nous retrouvons armes, nous retrouvons combat, nous retrouvons forteresse, nous retrouvons soldats. Ne sont-ce pas là des termes martiaux ? N'est-ce pas que tous ces termes suggèrent la guerre, le combat, la bataille? Il n'est donc pas faux de parler de bataille, de guerre spirituelle. C'est même biblique. Et maintenant, la réponse à la seconde partie de notre question qui consistait à savoir pourquoi parler de bataille des âmes. Un verset de la Bible est très parlant à ce propos, mon frère, ma sœur. Et nous allons lire ensemble ce verset. Et nous verrons qu'effectivement, il nous faut parler de bataille des âmes. Et nous allons, toujours dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, et nous allons lire le verset 12. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce verset nous parle de la nature même de notre combat. Le combat pour les âmes n'est pas n'importe quel combat. Notre guerre ou combat est spirituel et il exige une réponse spirituelle. Tout combattant pour la bataille des âmes, écoutez-moi bien, tout combattant pour la bataille des âmes se doit impérativement d'intégrer cette vérité. Quelle vérité ? Que notre guerre, notre combat est spirituel et qu'il exige une réponse spirituelle. Sinon, le combattant qui n'intègre pas cette vérité, cette réalité, devient un infiltré qui fait le jeu de l'ennemi. Il constitue un point d'appui pour les troupes adverses, pour l'ennemi, pour venir interférer, pour venir agresser ce que nous sommes en train de faire. Outre l'impératif quant à la connaissance de la nature du combat, il est très important pour le combattant pour les âmes, il est vraiment très important pour le combattant pour la conquête des âmes de connaître son ennemi, sa nature, sa stratégie et toutes les armes dont il dispose. C'est très important. Donc, il nous faut connaître deux choses. Il nous faut connaître la nature de notre combat et la réponse que cette nature de notre combat exige. Et il nous faut aussi connaître notre adversaire, notre ennemi, celui qui nous combat, que nous combattons. C'est-à-dire connaître sa nature, sa stratégie et toutes les armes dont il dispose. C'est très important d'être au fait de toutes ces choses. Tout ceci induit une très bonne formation des combattants. Ces deux choses que nous venons de voir impliquent qu'il faut que les combattants soient formés dans l'art de pratiquer la guerre spirituelle. On ne s'improvise pas combattant pour les âmes, non, non, non. Car souvent, à cause de l'absence de formation, les combattants ne connaissent ni la nature de la bataille dans laquelle ils sont engagés, ni la nature de leur adversaire, ni ses stratégies, ni les armes dont ils disposent. Mais c'est catastrophique cela. Et ceci a pour conséquence gravissime la défaite et la débandade dans le camp des enfants de Dieu. Les disciples de Christ aujourd'hui mettent la charrue avant les bœufs. Ils ne réalisent pas que Jésus a d'abord dit à ses disciples « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». En Matthieu 4, 19, vous pourrez lire cela. Jésus dit à ses disciples « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Et c'est seulement au bout de 3 ans qu'il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples » en Matthieu 28, verset 19. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » comme cela est écrit en Marc chapitre 16 au verset 15. Donc, nous disons que 3 ans se sont écoulés entre le « suivez-moi » de Jésus et le « allez » qu'il a dit à ses disciples. Et entre les deux, il y a eu le façonnage des disciples, le moulage des disciples. Et ce temps de formation, ce temps d'équipement, c'est ce que le Seigneur utilise pour nous revêtir du caractère de disciples engagés dans la bataille pour les perdus. Que déclare la Bible, la parole de Dieu? Lisons ensemble la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, le verset 37. Il est écrit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Observez avec moi que la Bible parle de toutes ces choses au pluriel. Et la Bible déclare clairement que nous sommes plus que vainqueurs sur toutes ces choses au pluriel. La Bible ne dit pas que nous sommes des vainqueurs, mais elle déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Pour bien marquer la différence entre nous et les vainqueurs, c'est-à-dire pour bien marquer cette différence entre les vainqueurs et les plus que vainqueurs, je dirais ceci. Les vainqueurs le sont sur une chose, et les plus que vainqueurs le sont sur toute chose, à l'image de leur Dieu. Pourquoi je l'affirme avec tant de véhémence? À cause de la nature de notre Dieu qui lui est omniprésent, omniscient et omnipotent. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent sur toutes les choses. Cela veut dire qu'il règne sur toutes les choses au pluriel. Et Jésus-Christ est celui qui nous a aimés et il vit en nous. De par sa position dans les lieux célestes, à la droite de la majesté de Dieu et en même temps de sa présence en nous, il nous remplit de la gloire et de la puissance de sa résurrection. Alors, vous me direz, qu'est-ce que la gloire et la puissance de la résurrection ? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Voilà la gloire et la puissance de la résurrection. Voilà ce que déclare Colossiens chapitre 1 verset 27 dans la partie B. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais au fait, c'est quoi toutes ces choses sur lesquelles nous sommes plus que vainqueurs? C'est légitime de se poser cette question. Oui, on veut bien, nous sommes plus que vainqueurs sur toutes ces choses. Mais quelles sont ces choses? Il nous faut les connaître. Et nous lisons la parole de Dieu, parce que toutes les réponses à nos questions se trouvent dans la parole de Dieu. Et nous allons encore ensemble dans l'épître de notre frère Paul aux Romains, au chapitre 8, et nous allons lire du verset 35 au verset 38. Il est écrit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Et ça continue, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, Jésus-Christ qui est notre victoire. » Toutes ces choses que nous venons de voir dans ces deux portions de l'Écriture sainte nous parle de toutes ces choses au pluriel sur lesquelles vous et moi, nous sommes plus que vainqueurs. Et ici, on dit « ni la mort, ni la vie » dans le verset 38. Et je tiens à préciser ici, concernant la vie, qu'il est question des vicissitudes, c'est-à-dire des différents problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et quand on parle des anges, puisqu'on dit « ni les anges », ici, on parle des anges qui ont été déchus, qui sont déchus, c'est-à-dire Satan et ses démons. On ne parle pas de ces anges qui servent Dieu pour sa gloire, non. Parce que Hébreux, chapitre 1, verset 14, déclare que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Donc on ne parle pas de ces anges-là, mais on parle bel et bien des anges qui ont été déchus, qui ont suivi Satan, le serpent ancien, Lucifer, dans sa folie, dans sa rébellion, dans sa révolte contre la majesté de Dieu. Le but de notre combat pour les âmes et de faire connaître aux hommes que celui qui les agresse et les combat est déjà vaincu. Voilà. Ces âmes perdues ne savent pas que celui qui les agresse jour et nuit, celui qui les tourmente jour et nuit, celui-là est déjà vaincu. Et le but justement de notre combat pour les âmes et de faire connaître à ces hommes et à ces femmes cette réalité-là. Et nous devons proclamer face à Satan et à ses démons qu'ils sont vaincus. Voilà le but du combat pour les âmes. D'une part, faire connaître aux perdus, à ceux qui sont dans l'ignorance, que celui qui les agresse, qui les combat, qui veut les détruire, les égorger, les ravager, piller ce qu'ils ont, est déjà vaincu. Et c'est aussi de nous tenir devant celui qui combat nos frères et nos sœurs pour lui dire clairement à lui et à ses démons que vous êtes déjà vaincus. C'est très important. En 1 Jean 3, 8, il est écrit « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Et je veux, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu saches que la victoire de Jésus-Christ sur les œuvres du diable est totale et définitive. Cette victoire que Jésus-Christ de Nazareth t'a acquise à la croix du Calvaire, à Golgotha, est une victoire totale et définitive sur les puissances des ténèbres. Ne te laisse donc pas abuser. Et nous sommes tenus de le dire aux perdus qui ne doivent plus continuer à se laisser abuser. Ils n'ont aucune raison de vivre dans la peur, dans les tourments, parce que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Et devant Jésus-Christ, à l'énoncer, au prononcer du nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent en haut dans les cieux, en bas sur la terre, sous la terre et même dans les profondeurs de la mer, tous les genoux fléchissent et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est très important cela, chers frères et sœurs. Et nous avons le devoir d'aller le dire, le déclarer, l'affirmer auprès des perdus, auprès de ceux qui sont détruits à cause de leur ignorance. Car ce qui triomphe et qui nous permet de monter dans le char de la victoire de Christ, c'est notre foi en Jésus-Christ de Nazareth, le Fils bien-aimé de Dieu. Et nous devons leur faire comprendre ces choses, qu'ils ont besoin de croire en ces Jésus-Christ-là, vainqueur, triomphateur de Golgotha. Ils ont besoin de foi dans leur vie. Mais si on ne leur parle pas, Si on ne va pas vers eux, si on passe notre temps à les juger, à les condamner, à les repousser, à les rejeter, qui va leur apporter la vérité qui va les affranchir? Qui? C'est notre rôle à toi et à moi, ma chère sœur, mon frère. C'est notre rôle. Nous devons continuer l'œuvre de Jésus-Christ comme l'ont fait avant nous ses apôtres, ses disciples, tous les aînés de la foi qui nous ont précédés. 1 Jean 5, versets 4 à 5 déclare « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Eh bien, ces perdus ont besoin de savoir, de croire que Jésus-Christ de Nazareth est réellement le Fils bien-aimé de Dieu. Ils ont besoin de savoir, de connaître Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ils ont besoin d'entendre cela et de croire en cela. Comment parler du combat pour les âmes, bien chers frères et sœurs, sans parler de la croix de Golgotha? Comment pouvons-nous parler du combat pour les âmes, pour la conquête et la reconquête des âmes, sans parler de l'œuvre glorieuse de la croix du Calvaire? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu veux gagner des âmes pour Christ? Tu veux dépeupler le royaume des ténèbres pour peupler le royaume glorieux de lumière, le royaume de Dieu? Alors laisse-moi te dire aujourd'hui que tu dois assimiler l'œuvre de la croix de Golgotha. Tu dois adhérer totalement et sans réserve à l'œuvre unique de la croix du Calvaire de Golgotha. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est là que tout commence vraiment pour une nouvelle vie. Il est écrit en 1 Corinthiens au chapitre 1er au verset 18 « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, une puissance de Dieu, une puissance de Dieu. » Parce que là, à la croix de Golgotha, l'amour de Dieu a atteint son paroxysme, son point le plus élevé. Il est impossible d'aimer comme Dieu a aimé en envoyant son Fils unique sur la croix. C'est impossible d'aimer plus que ça. Après, c'est le vide, chers frères et sœurs. On ne peut pas aimer au-delà de la capacité qui est en Dieu d'aimer. Personne ne peut aimer comme cela. Personne ne peut aimer comme Jésus aime. Personne ne peut aimer comme Dieu aime. C'est impossible. Ça, c'est une impossibilité éternelle. On ne pourra jamais aimer comme cela. Et quand la Bible déclare en Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde », ce n'est pas que Dieu aime le monde avec ses convoitises, non. Dieu, quand la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde », c'est-à-dire Dieu aime les êtres qu'il a créés, car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a créés à son image et selon sa ressemblance, qu'il a donné son Fils unique. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe a crié « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné ». L'enfant nous est né, mais celui qui nous a été donné pour le salut, c'est le Fils. Ô Seigneur, merci pour cet enfant qui nous est né, mais merci pour ce Fils qui nous a été donné pour notre salut. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu, pendu au bois, est l'expression de l'amour parfait, de l'amour dans toute son infinité. C'est encore l'expression de l'amour pardon, de l'amour réconciliateur de Dieu. Cet amour incomparable, inégalable, insondable, incompréhensible, cet amour qui dépasse toute intelligence, toute logique, l'amour de Dieu est au-delà de toute compréhension, mon frère, ma sœur. Oh, comment ne pas se prosterner devant un tel Sauveur en entendant résonner ces paroles d'amour absolu dans nos cœurs. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment ne pas se prosterner à ses pieds lorsqu'il dit encore, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et cela a été dit au bon larron, à celui qui a pris le temps, même à la dernière seconde, de se repentir. L'amour de Dieu est tel que même à la dernière seconde, il accepte encore la repentance d'un homme qui toute sa vie durant a été loin de lui. Comment ne pas se prosterner devant ce Sauveur merveilleux qui en Jean 19,30 s'écrit « Tout est accompli ». Quel Sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. J'aime énormément ce cantique, car mon Seigneur, mon Sauveur, a été attaché à la croix, à ma place. Il a été battu, maltraité, opprimé, brisé pour mes péchés. Ô Jésus, merci pour cela. En Jean 15, au verset 13, Jésus déclare, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus-Christ a déclaré. N'est-ce pas merveilleux cela? N'est-ce pas merveilleuse cette déclaration? N'est-elle pas merveilleuse cette déclaration de Jésus? Gloire à toi, Seigneur. Merci. Alors, chers frères et sœurs, prenons vraiment du temps dans nos maisons. Prenons du temps. Là où nous sommes, prenons du temps pour méditer sérieusement sur ce que moi j'appelle l'hymne à l'amour parfait, c'est-à-dire 1 Corinthiens 13. Moi je l'appelle l'hymne à l'amour parfait et infini. Parlons maintenant, ça c'était une introduction, tout ce que nous nous sommes dit jusque-là. Parlons maintenant de ce secret que je viens de découvrir en méditant la parole de Dieu pour être un vrai gagneur d'âme, un combattant efficace et crédible pour le gain des âmes. Et nous allons tous ensemble, car ce secret se trouve dans cette portion de l'Écriture sainte que nous allons lire ensemble maintenant. Et je t'invite, ma bien-aimée, mon bien-aimé, à ouvrir ta Bible. Dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2, et nous allons lire juste le verset 5, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. » Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Que nous dit le Seigneur au travers de son serviteur l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, le premier verset. Qu'est-ce qui nous est dit là? Nous venons de lire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ », c'est-à-dire Philippiens chapitre 2, verset 5. Et maintenant, nous lisons la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, et nous lisons le premier verset. Il est écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». L'apôtre Paul dit qu'il est imitateur de Christ et il nous enjoint, il nous recommande, il nous invite à nous les disciples de Christ aujourd'hui d'être des imitateurs de Christ comme lui-même l'a été. Et dans la lettre aux Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, du premier verset au verset 2, il est écrit « Devenez donc les imitateurs de Dieu » comme des enfants bien-aimés et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, j'insiste, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et encore une troisième lecture, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, et nous allons lire du verset 6 au verset 7, 1 Thessaloniciens 1, 6 à 7, il est écrit, « Et vous-même, virgule, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Tout ceci, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces lectures nous font comprendre combien il est important pour le disciple qui veut gagner des âmes pour Christ de ressembler au modèle saint et parfait qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le modèle parfait à imiter dans la bataille pour le gain des âmes. Dans la bataille pour la conquête et la reconquête des âmes. Jésus-Christ est le modèle parfait, le modèle absolu, le modèle sublime. Le dictionnaire définit le disciple de la manière suivante. Écoutez bien, disciple, personne qui reçoit l'enseignement d'un maître à penser. Et le dictionnaire des synonymes que j'ai aussi consulté dit du disciple que c'est un fils, un partisan. Mais si nous revenons sur la définition du Robert, il y a deux choses qui sont mises en exergue, c'est-à-dire en évidence, et qui, à mon sens, sont très importantes. Revenons un peu à cette définition. Elle dit quoi? Que le disciple, c'est une personne qui reçoit un enseignement, l'enseignement d'un maître à penser. Alors nous avons là dans cette définition deux choses extrêmement importantes concernant ce que nous sommes en train de nous dire. Premièrement, recevoir l'enseignement. Ceci me pousse à affirmer qu'au-delà d'être écouté, l'enseignement doit se recevoir. et encore d'affirmer que seul le fait de recevoir l'enseignement forme des disciples. Donc, les disciples, c'est ceux qui véritablement reçoivent l'enseignement, qui ne se bornent pas à l'écouter, mais qui le reçoivent. Comment ? En le pratiquant, en s'identifiant à cet enseignement, en adhérant complètement à cet enseignement. Je pense que nous avons là une des différences fondamentales entre la prédication et l'enseignement. Au travers de ce qui nous est dit ici, nous avons cette différence fondamentale entre l'enseignement et la prédication. Parce qu'il nous faut comprendre que l'enseignement, ce n'est pas la prédication. La prédication, ce n'est pas l'enseignement. La prédication a pour but final la conversion. La prédication vise la conversion. Alors que l'enseignement a pour finalité de faire véritablement des disciples, c'est-à-dire des messages du message. Donc, nous devenons au travers de l'enseignement le message. C'est ça que cela veut dire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais répéter cela. La prédication a pour but final vise dans sa finalité la conversion des âmes. Alors que l'enseignement a pour finalité de faire des disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ressemblent véritablement à Jésus-Christ de Nazareth. Mais je tiens à préciser que les deux sont complémentaires et nécessaires. Je ne suis pas en train de dire que l'enseignement est plus important que la prédication ou que la prédication est plus importante que l'enseignement. Non, ce n'est pas mon propos. Mais il était, à mon sens, important de montrer la différence fondamentale qu'il y a entre l'enseignement et la prédication, entre la prédication et l'enseignement. Mais j'insiste, les deux sont complémentaires et sont absolument nécessaires et indispensables. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, au verset 19, Jésus-Christ de Nazareth déclare ceci: « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Pas différemment, mais pareillement. J'affirme donc que Jésus-Christ était le disciple de son Père. Et je leur ai dit avec force, Jésus-Christ de Nazareth était le disciple de son Père. Le deuxième élément par rapport à la définition que nous avons vue tout à l'heure, c'est-à-dire le disciple est celui qui reçoit l'enseignement d'un maître à penser. Eh bien, le deuxième élément très important dans cette définition, c'est le maître à penser. Donc celui dont on reçoit l'enseignement est un maître à penser. Il est notre maître à penser. Donc le disciple doit s'identifier à celui dont il reçoit les enseignements. Cela veut dire qu'il doit s'imprégner de sa façon de penser, de raisonner et d'agir. Et c'est ce qu'on nous demande par rapport à Jésus. Nous devons nous identifier à Christ. Nous devons penser comme lui pensait, raisonner comme lui il a raisonné, agir et réagir comme lui il a agi et réagi. Nous ne pouvons pas nous dissocier de notre modèle parfait. Il est, Jésus-Christ est notre modèle à penser à nous les chrétiens. Jésus-Christ est notre modèle à penser à nous les enfants de Dieu. Et je tiens ici toutefois à préciser, et cela est très important, que la relation entre le disciple et son mentor ne doit rien avoir avec la perte d'identité. Non. Le disciple doit être capable de choisir et de ne pas être mis sous un carcan, un joug. La liberté de choisir est primordiale et incontestable. Or, avec notre Dieu, nous avons toutes ces choses-là. La liberté de choisir. Dieu ne nous oblige en rien. Dieu n'a pas créé des robots qu'il télécommanderait depuis le ciel. Non, non, non. Dieu nous aime tellement qu'il nous a créé à son image, son nom, sa ressemblance, et il nous respecte, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu sais que Dieu te respecte? Alors pourquoi toi tu ne veux pas respecter Dieu? Tu oublies que le respect est une relation de réciprocité. Le mentor ne doit en aucun cas faire de son disciple un fanatique. Parce qu'alors il devient un gourou et Jésus-Christ n'est pas un gourou pour nous. Jésus n'est pas venu chercher des fanatiques, mais des disciples. Pourquoi ? Parce que alors que le fanatique est aveugle, le disciple a les yeux ouverts, il voit très bien. Et Jésus veut des hommes et des femmes qui voient et non pas des aveugles. Voilà pourquoi Jésus n'a pas besoin de fanatiques. Et toi qui m'écoutes, sache que si tu te prends pour un fanatique de Jésus, tu es en train de te tromper. Il ne veut pas des fanatiques. Parce que le fanatique, il ne sait même pas pourquoi il est en train de suivre son mentor. Mais Jésus veut que tu saches pourquoi tu le suis et pourquoi c'est ton intérêt à toi de le suivre. D'où Jésus veut que tes yeux s'ouvrent. Et Jésus est venu ouvrir les yeux aux aveugles pour cela. Tandis que le gourou vise à ce que les autres restent toujours dans l'aveuglement pour qu'ils puissent bien les dominer, les spolier, les maltraiter. C'est très important de comprendre cela. En Jean chapitre 8 au verset 12, il est écrit, c'est Jésus encore qui parle, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cela veut dire, celui qui suit Jésus voit. Voilà pourquoi Jésus ne cherche pas des fanatiques. J'insiste, parce que les fanatiques sont des aveugles plus qu'aveugles encore. Ils sont aveugles comme des taupes, mais plus que des taupes encore. Lisons, mon bien-aimé, ma bien-aimée, attentivement la lettre de Paul aux Philippiens, l'épître de notre frère Paul aux Philippiens, le chapitre 2. Et nous allons lire du verset 7 au verset 8. Il est écrit, « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Dans ce qui est dit ici, nous avons plusieurs sentiments qui étaient en Christ et qui sont des boosters pour le travail du gagneur d'âme. Voyons ensemble cela. Premièrement, on nous parle du dépouillement. Le dépouillement. Jésus-Christ a déclaré ceci dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 au verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, j'insiste, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc il s'agit pour celui qui veut véritablement suivre Jésus-Christ et l'honorer, il s'agit de renoncer, de se charger de sa croix et de le suivre. Mais cela chaque jour, à chaque aujourd'hui comme on dit, il s'agit de renoncer, de se charger de sa croix et de suivre Jésus-Christ. Dans ces paroles de Jésus, plusieurs choses nous parlent du dépouillement. D'abord, le renoncement. Qu'est-ce qu'est le renoncement ? C'est l'acceptation volontaire, j'insiste, volontaire, de se priver de ce que l'on possède ou que l'on croit posséder, ou encore de laisser tomber quelque chose que l'on convoite, que l'on envie. Voilà le renoncement. Et le vrai renoncement doit être un acte volontaire et non pas imposé. En Éphésiens, au chapitre 4, le verset 17b, il est écrit, « Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Et en Éphésiens, toujours au chapitre 4, du verset 20 au verset 25, on nous dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous devons réaliser que nos pensées en dehors de Christ ne sont que vanité. C'est pourquoi, une fois que nous sommes en Christ, nous devons laisser le Saint-Esprit changer non seulement nos pensées, mais également notre manière de penser, notre processus de penser. Nous devons laisser le Saint-Esprit changer cela. Nous devons absolument, chers frères et sœurs, laisser le Saint-Esprit livrer pour nous cette bataille des pensées. Car c'est le champ de prédilection de l'ennemi pour nous combattre, les pensées. Le diable nous attaque beaucoup dans nos pensées. C'est un terrain sur lequel il est très performant, il faut que je le dise. Souvent les gens disent « Ah, je n'ai pas commis l'adultère ». Mais la Bible nous dit « Celui qui a regardé une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur ». Donc vous voyez, c'est vraiment le terrain de prédilection de Satan. Voilà pourquoi nous péchons si souvent avec nos yeux. Et il nous faut donc laisser au Saint-Esprit l'initiative de cette bataille pour les pensées. Car lui, il est plus fort que celui qui est dans le monde et celui qui vient nous perturber dans nos pensées. Romains chapitre 12 au verset 1er nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et la suite, nous la connaissons. J'aimerais que nous lisions cela ensemble dans la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles. Donc nous allons lire Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui sera agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Donc celui qui veut vraiment appartenir à Christ se doit de renoncer à la possession de son corps et laisser le Saint-Esprit l'inonder, le remplir et le posséder totalement. Pourquoi ? Afin que ce corps ne serve plus la gloire de ce monde, mais qu'il serve à la gloire de Dieu. N'est-il pas écrit, chers frères et sœurs, nous allons lire là deux portions de l'Écriture sainte, n'est-il pas écrit en 1 Corinthiens au chapitre 5 au verset 16, je lis, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et en Éphésiens au chapitre 2 au verset 22, il nous est dit « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » La Bible, mon frère, ma sœur, est véritablement un livre hors du commun, dans la mesure où elle nous donne tout ce dont nous avons besoin pour répondre favorablement à la volonté de Dieu. Un exemple, je vais donner un exemple par rapport à ce que je viens de dire. Dieu nous parle de renoncement. Et quel est le moyen que nous donne la Bible pour parvenir au renoncement? Lisons ensemble la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 18, donc 2 Corinthiens 4, 18. Il est écrit, « Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Donc, la Bible nous parle de renoncement et le moyen que la Bible nous donne, alors que Dieu nous parle de renoncement, le moyen que la Bible nous donne pour que nous puissions vivre effectivement cette vie de renoncement, quel est le moyen que la Bible nous donne au travers de cette portion de l'Écriture? C'est que nous devons détacher nos regards des choses visibles pour maintenant les tourner résolument et les verrouiller, les fixer sur les choses invisibles. Car les choses visibles, mon frère, ma sœur, passeront avec fracas. Mais les choses invisibles sont éternelles. Et c'est justement ces choses, ce sont justement ces choses invisibles qui nous invitent à la foi. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qu'on espère et que nous pouvons démontrer, même sans les avoir encore vues, au travers de notre foi. Parce qu'une espérance qu'on ne voit n'est plus une espérance. Une espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Hébreux chapitre 11, verset 1er nous dit « La foi est une ferme assurance en des choses qu'on espère, c'est-à-dire qu'on ne possède pas encore, qu'on ne voit pas encore, mais qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc il s'agit des choses qu'on espère et des choses qu'on ne voit pas. Pas encore, mais que nous verrons de toutes les façons. La finalité, c'est que Dieu veut que nous puissions les voir, ces choses. Voilà pourquoi nous avons la foi, parce que nous savons que Dieu veut qu'un jour nous puissions les voir, ces choses, les palper, les toucher. Donc vous voyez, la Bible est un livre hors du commun, comme je viens de le dire. Non seulement elle nous énonce des principes, mais elle nous donne les différents moyens qui nous permettent d'accéder, d'honorer ces principes divins, ces préceptes divins, les ordonnances divines, les commandements divins. Oh, la parole de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puissions-nous vraiment chérir tous la parole de notre Dieu. Donc, le gagneur d'âme, pour être efficient, c'est-à-dire pour être efficace, doit regarder constamment aux choses invisibles dans sa bataille pour les perdus et non pas aux choses visibles. Il doit avoir le regard, certes, sur le perdu, sur sa circonstance, ses circonstances, sa situation, mais le regard de son entendement, les regards de son cœur sont verrouillés, fixés sur les choses invisibles, sur le royaume de Dieu. Et je t'invite, mon bien-aimé, ma bien-aimée, à méditer l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3. Du premier verset au second verset. Et toujours à propos du renoncement, je t'invite encore à méditer deux modèles dans la parole de Dieu. Et ces deux modèles sont Abraham et Moïse. Bien sûr, dans la parole de Dieu, il y a eu des renoncements extraordinaires. Nous avons beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes qui ont renoncé pour suivre Dieu, pour honorer Dieu, pour manifester leur amour pour Dieu. Mais j'ai choisi Abraham et Moïse parce que ça m'a frappé. Mais il y en a plusieurs. Lorsque dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, au premier verset, l'Éternel parle à Moïse, qu'est-ce qu'il lui dit ? « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Il ne lui dit pas non, « Va-t'en de ta patrie, de ton pays, de la maison de ton père, de ta parenté. » Pour aller, admettons, en Chine, au Japon, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suisse. Non, il ne parle pas de ça. Il lui dit dans un pays que je te montrerai, bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas dit à Abraham où il allait l'amener. Il lui a simplement dit dans un pays que je te montrerai. Donc Dieu demande à Abraham de renoncer à une grande partie de tout ce à quoi il tient. Une grande partie de tout ce qu'il aime. Et tout ça pourquoi ? Pour un lieu qu'il ne connaît pas. Car Dieu lui parle d'un pays qu'il va lui montrer, mais qu'il ne lui dit pas quel est ce pays. Donc Dieu invite son serviteur Abraham à renoncer à tout ce qu'il vivait, à ses amis, à tout ce qu'il faisait avec ses amis, pour l'inconnu. En fait, c'est ça. Dieu invitait Abraham à l'inconnu. Et souvent, Dieu nous invite à l'inconnu. Mais l'inconnu de nous, lui, il sait où il veut nous mener. Parce qu'il nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vos vies. Il les connaît, ces projets, mon frère, ma sœur. Dieu connaît exactement chaque projet qu'il a formé sur ta vie. Si toi, tu ne les connais pas, lui, il les connaît. Fais-lui seulement confiance parce qu'il connaît et il te dit la chose maintenant que toi tu dois connaître et garder dans ton cœur ce qu'il te dit en Jérémie 29, 11, qu'il connaît les projets qu'il a formés sur ta vie, mais il te rassure, il nous rassure, toi et moi, que ces projets sont des projets de paix et non de malheur. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous ayons un avenir et de l'espérance. Voilà ce que nous devons garder. Il connaît les projets qu'il a formés sur nos vies, mais ces projets, ce que dont nous sommes sûrs, c'est que ces projets sont des projets de paix. Donc qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des tornades, des ouragans, que même le vent impétueux appelé Héraclion se lève contre nous, Dieu connaît qu'il a prévu le vent du midi pour contrer Héraclion qui s'acharne contre nous. C'est très important. Et au verset 12, on nous dit, Abraham, parce qu'il n'était pas encore Abraham, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il ne savait pas où il allait, mais parce que c'est l'Éternel qui a parlé, Abraham s'est levé, il a dit, au revoir papa, au revoir maman, au revoir mes frères, mes soeurs, mes oncles, mes tantes, au revoir mon pays que j'aimais, au revoir ma patrie, ma nation, je pars. L'Éternel a parlé et je me prosterne et je m'incline. Est-ce que nous réagissons? Est-ce que moi qui vous parle, je réagis comme ça? Est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que tu réagis comme Abraham lorsque Dieu te dit de faire quelque chose? Même s'il t'envoie vers l'inconnu, sache que l'inconnu, c'est pour toi. Mais lui, il sait toute chose, il voit toute chose, il connaît toute chose. Il ne va pas aller t'emmener dans un endroit où tu vas être détruit. Il t'envoie là pour que tu entres dans ta destinée. Voilà ce que fait l'Éternel. Et le deuxième exemple, c'est Moïse. Au sujet de Moïse, mon frère, ma sœur, il y a des versets dans la parole de Dieu qui résument merveilleusement ce qu'est le renoncement selon Dieu. Et je dois dire, et j'avoue ici que chaque fois que je lis cette portion de l'Écriture, cette portion de l'Écriture qui concerne Moïse, le renoncement de Moïse, je suis à chaque fois bouleversé. Et je suis à chaque fois interpellé. Il est écrit dans l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 11, du verset 24 au verset 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir part pour un temps à la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et cette rémunération n'est pas terrestre, mais c'est une rémunération céleste. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Permettez-moi ici, chers frères et sœurs, d'attirer notre attention à tout sur le verbe préféra. On nous dit Moïse préféra. Et cela marque le choix de Moïse. Cela ne lui a pas été imposé. Il avait devant lui la gloire de l'Égypte, la gloire que l'Égypte mettait à ses pieds, les richesses de Pharaon à ses pieds et la gloire de Dieu à venir. Et Moïse a fait un choix. Voilà pourquoi on utilise le verbe préférer. Moïse préféra d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Donc, cela n'a pas été imposé à Moïse. Moïse a fait un choix. De son propre chef, il a décidé de s'identifier à l'humiliation du peuple de Dieu en lieu et place de la gloire que l'Égypte mettait à ses pieds. Quel était le secret de Moïse? Eh bien, le secret de Moïse est celui que nous venons de voir tout à l'heure. Il avait les yeux fixés sur la rémunération céleste. Voilà. Mais pour ce qui concerne le renoncement, chers frères et sœurs, l'exemple parfait, le modèle parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire ici toute une série de versets qui nous parlent de ce glorieux renoncement, de cet exemple extraordinaire du renoncement qui nous est donné par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En Matthieu 26, verset 39, il est écrit « Mon Père ». C'est Jésus qui prie à Gethsémané. Il dit, « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » En Luc 2, 49, Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Jean 4, 34, nous avons vu ça tout à l'heure. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean chapitre 6, verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau, sur la montagne, lui seul. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous l'avons vu tout à l'heure également. Donc Jésus-Christ a renoncé à sa volonté pour mettre en avant la volonté de son Père. Jésus-Christ a renoncé à sa vie pour que les hommes aient la vie au travers de lui. Dieu a renoncé à son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Maintenant, deuxième point, se charger de sa croix. Dans le sens chrétien, c'est accepter de porter, et je dirais même plus de supporter, les injustices, les oppositions et les persécutions. Pourquoi ? Par motif de bonne conscience envers le Seigneur. Le gagneur d'âme se doit d'être faible par motif de bonne conscience envers le Seigneur. En Matthieu 5, 44, il est écrit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. » Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. En Matthieu chapitre 5, toujours verset 11, heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 8b à 10. Le gagneur d'âme doit bien comprendre que les faiblesses dont il est question ici sont des faiblesses qui honorent son maître et qui constituent un exemple pour les perdus. Donc les faiblesses dont on parle ici doivent constituer un exemple pour ceux qui sont perdus. Les faiblesses dont on parle ici doivent véritablement être des lumières pour cette terre. Les faiblesses dont on parle ici sont celles qui doivent assaisonner ces vies qui n'ont pas de goût céleste. Voilà les faiblesses dont il est question ici. On n'est pas en train de parler ici de faiblesses, d'adultère, de mensonges, etc. Non. Ces faiblesses doivent exalter Jésus-Christ, doivent élever le nom de Jésus-Christ. Voilà ce que cela veut dire. Dans les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ nous donne des exemples poignants concernant ce genre de faiblesse sur sa propre personne. Nous devons lire et méditer ces exemples. Prendre l'exemple de Joseph chez Potiphar, en Genèse 39, du verset 7 au verset 23, et Genèse chapitre 40 et du chapitre 40 au chapitre 41. Dans le chapitre 40 et le chapitre 41, pardon. Donc, le gagneur d'âme se doit d'avoir constamment une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Cela est écrit en Actes des Apôtres, au chapitre 24, au verset 16. Et notre frère Paul nous donne son exemple dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, du verset 19 au verset 23. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Et 1 Corinthiens 9, 27 nous dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Mais attention, il n'est pas du tout question de se compromettre. Ce que nous disent ces deux portions de l'Écriture que nous venons de lire, ce ne sont pas des invitations. Ces deux portions de l'Écriture ne sont pas des invitations à la compromission. Nous devons refuser toute forme de compromis, de compromission avec le monde et ses convoitises. Cela doit être clair. Le gagneur d'âme a un travail à faire auprès de ceux-ci, des perdus. Mais il ne doit en aucun cas participer aux œuvres de ceux-ci, c'est-à-dire des âmes qu'ils cherchent à gagner pour Christ. Ceci me pousse à dire ceci, à déclarer, faiblesse qui honore le Seigneur, oui, mais compromission, jamais. Je vais répéter, faiblesse qui honore le Seigneur, oui, mais compromission, jamais, jamais, jamais. Et pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que cet enseignement vous apporte la lumière dont vous avez besoin pour le gain des âmes et pour la reconquête des âmes rétrogrades. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, car vous êtes déjà bénis depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous, qu'il est ressuscité pour vous et qu'il est assis à la droite de Dieu pour vous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.